Bien, bonjour à tous, nous voilà dans le cadre d'un podcast des Échos de l'ASGO et nous sommes en présence de Nicolas Marquès et de Olivier Desétave, qui est membre du conseil d'administration de l'ASGO et qui nous a préparé cette interview aujourd'hui. Nicolas, donc vous êtes de l'Institut Molinari. Que fait votre institut au quotidien ?
Au quotidien, on fait l'analyse des politiques publiques. On regarde si les politiques publiques font ce qu'elles disent et disent ce qu'elles font. Parce qu'entre l'affichage et la réalité, il peut y avoir des différences. Et concrètement, on fait beaucoup d'analyses de fiscalité. Quel est l'impact de la fiscalité, notamment l'impact de la fiscalité sur les entreprises, parce que cette fiscalité, elle se retrouve généralement sur les consommateurs, sur les salariés, sur les actionnaires. L'entreprise en tant que telle, c'est une fiction sociale, comme le dit Harari, elle transmet la fiscalité à d'autres. Ça, c'est très méconnu en France. On fait beaucoup d'analyses réglementaires sur, par exemple, l'organisation de certains domaines. En ce moment, on publie beaucoup sur les retraites, qui est un grand sujet. Et on fait aussi des travaux sectoriels. À ce titre, on a travaillé sur le domaine des télécoms, ce qui nous amène à échanger aujourd'hui.
Vous êtes déjà intervenu donc, aux AG de l'ASGO, donc aux deux dernières AG en particulier. En 2021, donc, le sujet avait été le partage de la valeur dans les groupes du CAC 40. Hein, et donc, on avait fait un zoom sur le groupe Orange. Cette fois, vous intéressez plutôt à la création de valeur, en particulier à celle des télécoms. Et donc, avec votre étude, donner la priorité à la création de richesses plutôt qu'à la redistribution. Alors, votre étude a suscité toute notre attention et donc nous souhaitions partager vos analyses avec les actionnaires salariés d'Orange, mais aussi donc le 23 mai, s'est déroulé l'AG d'Orange 2022, au cours de laquelle donc les dirigeants d'Orange ont exprimé des analyses et positions dont certaines sont bien en phase avec les développements et conclusions de votre étude. Dans votre étude, vous rendez hommage donc à la transformation du secteur télécom européen depuis 30 ans, donc qui a largement bénéficié aux consommateurs, à toute l'économie. Vous constatez que les opérateurs de télécom font face à de faibles rentabilités par rapport à celles des opérateurs aux États-Unis et dans les principaux pays asiatiques. Donc deux questions assez larges et puis donc j'en profiterai pour citer en fait quelques verbatim qui ont été entendus lors de l'AG d'Orange. Donc comment se situe la profitabilité des télécoms de l'Union européenne par rapport à celle d'autres zones géographiques et quels sont les principaux facteurs explicatifs de cette faible profitabilité ?
La profitabilité des télécoms est moins bonne en Europe que dans le reste du monde. Je vais vous donner deux indicateurs. C'est le ROE, le retour en equity, le retour de la rentabilité des fonds propres. Elle est de 10,6% en moyenne dans les télécoms dans l'Union européenne sur les 20 dernières années, sur la période 2002-2022 qu'on a étudiée dans l'étude. C'est beaucoup moins que dans le monde entier, hein, 14,2%, donc un déficit de plus de 3 points. Et c'est beaucoup moins qu'aux États-Unis, 19,4%, donc un déficit de plus de 8 points. Et ça, c'est vrai sur tous les indicateurs. Là, je vous citais la rentabilité des fonds propres, le ROE. Si on prend le ROC, la rentabilité du capital employé, on trouve aussi ce genre de décalage. Sur les 20 dernières années, le ROC en Europe est de 6 points. Il est de 7,3 dans le monde et il est de 7,7 aux États-Unis. Donc on voit bel et bien qu'il y a une profitabilité qui est moindre et qui est un sujet puisque vous êtes un domaine où il y a de l'investissement à financer et si vous avez moins de profitabilité, eh ben, ça complexifie l'équation financière.
Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer donc cette rentabilité plus faible donc, et on est content que vous citiez le ROCE hein, puisque c'est un indicateur majeur pour Orange. Hein, et donc...
Alors nous, on en voit trois. On voit trois grandes différences quand on regarde les opérateurs de télécom européens par rapport au reste du monde. La première, c'est la fiscalité. En Europe, on a encore ces couches de vieille fiscalité. En caricaturant, je pourrais dire qu'elles sont d'ancien régime, on a des fiscalités sectorielles spécifiques. Et ça, c'est quelque chose de problématique parce qu'on a des fiscalités qui ont été faites à l'époque où les télécoms étaient à l'abri avec des monopoles, dans un monde où l'innovation était déjà passée devant nous et on considérait que l'enjeu n'était plus un enjeu d'innovation pour demain et après-demain. On considérait que finalement l'investissement était déjà fait et qu'il s'agissait juste d'éviter que des opérateurs en situation de monopole n'abusent de leur situation de monopole. Donc ça, cette fiscalité trop élevée, c'est un facteur paralysant pour le développement des télécoms en Europe. Il y a deux niveaux de fiscalité. Il y a la fiscalité sectorielle liée aux télécoms, et puis il y a la fiscalité liée à l'impôt sur les sociétés, qui de façon étrange est plus élevée concernant les entreprises comme les vôtres, parce qu'en Europe, quand on regarde les grands pays du type la France ou du type l'Allemagne, l'impôt sur les sociétés favorise les entreprises qui font beaucoup de R&D. On a historiquement des impôts sur les sociétés élevés, mais on a fait des mécanismes d'abattement pour les entreprises qui font beaucoup de recherche, notamment dans le secteur médical, et celles-là sont compétitives au niveau international, tandis que les entreprises qui font moins de recherche, comme les vôtres, supportent l'entièreté de la dureté de l'IS européen. La deuxième chose qu'on voit, c'est qu'en fait, le marché des télécoms européens est très morcelé. Il y a une quarantaine d'acteurs pour 440 millions d'habitants. L'acteur moyen en Europe, dans les télécoms, il couvre 11 millions d'habitants. L'acteur moyen, par exemple aux États-Unis, il couvre plus de 100 millions d'habitants. Il y a 3 à 4 grands opérateurs en Amérique du Nord pour plus de 300 millions d'habitants. Et donc, les acteurs nord-américains ont un pouvoir de marché beaucoup plus important. Ils arrivent à répercuter leurs coûts sur leurs consommateurs de façon plus facile que vous. Et d'ailleurs, on voit aussi dans les évolutions des indices des prix en Europe, sur les 20 dernières années, les prix des télécoms ont baissé 35% en Europe, alors que les autres prix ont augmenté de près de 70%. Vous êtes le seul domaine où le consommateur a bénéficié de baisses de prix massives. Alors, nous, en tant qu'économistes, on s'en réjouit. Mais il faut toujours avoir à l'esprit la dose. Si la baisse de prix est trop massive, à un instant T, en tant que consommateur, on est tout à fait bénéficiaire. Mais si l'industrie en question est retardée et freinée dans ses investissements, une baisse de prix massive peut à long terme se traduire par une dégradation du rapport qualité-prix. Et puis il y a une troisième chose qu'on voit en Europe, c'est qu'en fait on a des acteurs qui sont moins capitalisés qu'ailleurs. Et ça c'est sans doute quelque chose d'historique, parce qu'en Europe on a ravagé nos économies au XXe siècle avec deux conflits mondiaux dans le cœur de l'Europe, entre la France et l'Allemagne, mais tous les autres pays européens ont participé à ça, et ça nous a amené à laminer nos capitalisations boursières. On s'en rend pas compte, mais on est très en retrait en termes de capitalisation boursière en Europe. On est aussi très en retrait en termes d'épargne longue, et ça va ensemble, et on a un déficit de 10 000 milliards d'épargne longue dans l'Union européenne, et ça concrètement, ça nuit à des industries comme les vôtres, et ça nuit aussi à toutes les industries qui ont besoin de faire beaucoup d'innovation. Parce que le financement standard de l'innovation, c'est les places boursières. Vous arrivez à financer des business à visibilité importante par de l'endettement. Mais quand vous voulez financer de l'innovation, il faut avoir des places boursières importantes. On parle beaucoup des GAFA. La réussite des GAFA, c'est quoi? C'est deux choses. C'est beaucoup de commandes publiques. Et cette commande publique, elle est leveragée par des marchés boursiers dynamiques aux États-Unis et notamment le Nasdaq. Donc, quand vous êtes Elon Musk, vous vous arrangez pour avoir la commande publique. Et puis après, vous allez voir les analystes boursiers et vous leur dites, regardez, j'ai mon seed money, j'ai ma base de développement. Aidez-moi à vendre mes actions et je vais renforcer mon développement grâce à ça. Et donc ils font du levier là-dessus. Nous, en Europe, on a une commande publique qui est beaucoup plus économe, beaucoup plus peindre, avec des autorités qui négocient toujours, et on a des marchés boursiers qui sont moins développés, ce qui fait que nos entreprises, dans l'innovation, ont du mal à grandir vite. Voilà, selon nous, les trois facteurs.
Donc merci pour ce panorama de l'étude, et on va revenir en détail sur certains sujets que des verbatims de l'AG, donc qui vont montrer que ce qu'on vous présente ce matin donc est bien dans les sujets de préoccupation du groupe Orange. Donc Christian Lehmann, donc dans son allocution donc à l'AG, nous dit: notre secteur se trouve dans une situation paradoxale qui entrave la rentabilité des investissements dans les infrastructures télécom et les réseaux de demain. En parallèle, en Europe, l'environnement réglementaire pose un cadre inadapté aux réalités du marché. Les États-Unis, la Chine, l'Inde ont chacun 3 opérateurs, alors que l'on en dénombre près d'une centaine sur le vieux continent. Cet écart important pose en creux le financement des infrastructures télécom et celle de notre compétitivité sur la scène internationale. En 2022, les opérateurs américains ont investi dans leur réseau près de 2 fois plus par habitant que leurs pairs européens. Nous devons construire en Europe un modèle qui encourage l'investissement dans les infrastructures télécom. Voilà, donc c'est bien en ligne donc avec ce que vous venez de nous présenter ce matin. Bon, j'ajouterais donc Jacques Aschenbroich, 27 ans plus tard, la mise en place de la régulation des télécoms, il est surprenant de voir que malgré une concurrence effrénée sur le marché français, cette régulation n'a pas fondamentalement évolué. La France n'a pas encore pris le chemin d'une dérégulation progressive et nécessaire de son marché des télécoms. Après ces citations, donc je dois revenir sur un point important. Donc, vous évoquez la prise de conscience de la situation par la Commission européenne en citant Thierry Breton, qui a affirmé que les opérateurs n'ont aujourd'hui plus le juste retour sur leur investissement et qu'il faut réorganiser la juste rémunération des réseaux. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le secteur télécom, cette prise de conscience européenne.
Oui et non, parce qu'en fait, quand vous avez un sujet comme ça, un handicap comme ça, il y a deux façons de traiter le sujet. Il y a la façon patch. La personne a de la fièvre, ben on va lui donner un Doliprane. Et puis il y a la façon structurelle. La personne a de la fièvre, oui, elle a une infection. On va traiter l'infection. Et le risque, c'est de toujours tomber dans la bobologie du premier ordre et de ne pas traiter les sous-jacents. Et notamment quand Thierry Breton exprime ses inquiétudes sur le secteur des télécoms, inquiétudes qu'on comprend, c'est Thierry Breton, c'est pas anodin, c'est un commissaire européen, et l'Europe a un rôle à jouer. On a bel et bien un problème de fiscalité, et ce problème de fiscalité, on peut considérer qu'il relève des États nationaux, les autorités européennes pourraient être plus allantes pour dire il faut démanteler ces fiscalités particulières. En Europe, le standard de fiscalité, c'est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Et nous, en tant qu'économistes, on adore cette taxe-là, qui est une création française, une création de Maurice Lauré, parce qu'elle ne crée pas de distorsion. Elle ne va pas pénaliser ou favoriser un acteur. Elle a un effet homogène sur toute l'économie. On devrait financer exclusivement nos États européens avec cette TVA, sans garder l'ancêtre de la TVA. Les IFER, tous nos impôts de production, c'est des impôts pré-TVA. On avait justement créé la TVA dans les années 60 pour permettre le marché commun européen, pour éviter toutes les distorsions. Et on a gardé dans certains pays, notamment la France, des fiscalités particulières. Et là, l'Europe pourrait dire, supprimer ces fiscalités particulières. Deuxième aspect, comme on l'a vu, il y a un sujet faiblesse de pouvoir de marché des opérateurs européens. Et ça, c'est directement lié au droit européen. Et la collègue, la commissaire européenne Margaret Vestager, qui est une collègue de Thierry Breton, est à la tête d'une direction de la concurrence qui continue à appliquer un dogme totalement paralysant. En gros, en Europe, chaque pays est censé avoir au moins 3 ou 4 opérateurs dans les télécoms. Et donc, dès qu'il y a des projets de fusion entre les opérateurs nationaux, la Commission européenne dit « Oulala, il va falloir freiner parce qu'on risque de passer, par exemple, de 4 à 3 opérateurs et ça risque de détruire la concurrence, de réduire la concurrence. » Alors, de temps en temps, l'Union européenne bloque, ou de temps en temps, l'Union européenne assortit le projet de son acceptation de ce qu'elle présente comme des remèdes. Donc elle va autoriser la fusion, mais en contrepartie, il faut céder telle activité ou telle activité pour éviter que les opérateurs fusionnants aient trop de pouvoir de marché. Et donc ça rend ces fusions inopérantes. Et donc l'Europe contribue cette situation où, de façon caricaturale, dans toute une série de pays européens, les opérateurs de télécom sont des nains par rapport à la concurrence mondiale. C'est pas le cas en France, c'est pas le cas en Allemagne, mais grosso modo, ce morcellement est encouragé par l'Union européenne. Et ça, il faudrait le traiter. Bon. Et puis le troisième sujet, le manque de capitaux longs, c'est 10 000 milliards d'euros de capitaux longs qui manquent, qui pénalisent les télécoms, mais pas seulement. C'est un sujet global au niveau européen. Comment peut-on être au rendez-vous du 21e siècle, qu'il s'agisse de la transition énergétique, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, qu'il s'agisse des deep tech, si on n'a pas d'épargne longue? Alors, l'Europe multiplie toute une série de plans pour favoriser tel ou tel domaine, mais c'est de... ça n'aura pas d'effet d'entraînement si on n'a pas d'épargne longue. Donc, pour moi, vraiment, la crainte, c'est que l'Union européenne s'empare du sujet, dise qu'il faut faire quelque chose, et que les accroches de fond, les handicaps de fond, ne soient pas traités.
À l'heure actuelle, donc, Orange, donc, le groupe Orange soutient cette étude, donc il participera donc, à la consultation. Et donc, ce qui était constaté donc, lors de l'AG, donc, c'est, si je recite Jacques Aschenbroin, les acteurs qu'on nomme les GAFAM ne contribuent pas à leur juste valeur au coût de développement des réseaux qu'ils utilisent pour leurs propres services. C'est toujours, ils prétendent réaliser aussi des investissements, mais qui restent sans mesure avec ceux des opérateurs. Voilà, donc Orange donc, répondra donc, et est heureux que cette consultation soit lancée. Alors, si on revient sur la fiscalité des impôts de production, vous l'avez déjà évoqué, donc, est-ce qu'il y a quelques éléments complémentaires à nous communiquer, notamment sur l'IFER hein, donc, qui frappe en particulier les entreprises de réseau?
Oui, alors, l'IFER, hein, c'est l'impôt sur les entreprises de réseau. Vous n'êtes pas les seuls à en supporter, hein, puisque toutes les entreprises de réseau, d'infrastructures, en supportent, dans les transports, dans l'énergie. L'IFER, ça représentait 1,7 milliard en 2021. Et l'IFER fixe, c'est à peu près 400 millions, de l'ordre de 390 millions en 2021. L'IFER mobile, c'est 280 millions en 2021. Donc ce sont des fiscalités sectorielles qui pénalisent vos activités et qui surajoutent, hein, puisqu'il y a des couches diffères de 2G, de 3G, de 4G, de 5G. Dès qu'on fait un nouvel investissement, il est susceptible de payer cet IFER. Et donc ça obère la rentabilité. Et il y a d'autres fiscalités sur les télécoms. Si on prend le recensement de la Fédération française des télécoms, il y a par exemple 820 millions titres de redevance de fréquence. Il y a le CNC, 200 millions. Il y a la copie privée, 120 millions. Il y a la VOD, 8 millions. Donc quand on additionne tout ça, il y a 1,4 milliard de fiscalité spécifique. Et ça, c'est quelque chose d'anormal. En fait, vous avez une fiscalité de production deux fois plus élevée que les secteurs standards. C'est 3,1% du chiffre d'affaires des télécoms qui part en fiscalité de production en France, contre 1,4% pour l'économie en règle générale. Et vous avez toute une série de pays où la fiscalité de production est totalement en train de disparaître, voire est en train de devenir négative, parce que vous avez plus de subventions à la production que de fiscalité pénalisant la production. Donc, pour nous, c'est ça qu'il faut traiter. Et la démarche qu'on évoquait de Thierry Breton sur le faire cher ou autre, on est très dubitatif à son égard, parce qu'on estime que normalement un opérateur de télécom, il doit être autosuffisant, il doit avoir une rentabilité significative, et si ce n'est pas le cas, il faudrait regarder le cadre réglementaire et l'adapter pour que la rentabilité d'un opérateur de télécom soit normal.
Si on tient compte à la fois des impôts de production et de l'impôt sur les sociétés, comment se situe le secteur télécom en France par rapport à celle des autres pays européens? Est-ce qu'on on a plutôt une fiscalité d'impôt sur les sociétés moindre pour compenser les impôts de production?
Ah non, non, parce que vous avez aussi historiquement un IS plus élevé. Pourquoi? Parce que l'IS, historiquement, l'impôt sur les sociétés, était élevé en France. Il a baissé, mais pendant les 20 dernières années, il a été supérieur de façon significative à la moyenne européenne et à la moyenne mondiale. Les seuls aménagements qui avaient été faits pour tempérer la dureté de l'impôt sur les sociétés, c'était pour les entreprises qui faisaient beaucoup de recherche et développement, notamment dans le secteur pharmaceutique. Et vous, vous faites relativement peu de recherche et développement par rapport au... vous gérez une infrastructure, vous la déployez, vous l'entretenez, vous l'améliorez. Et donc, par construction, vous payez l'impôt sur les sociétés au tarif plein, avec très peu d'aménagement. Quand on regarde sur les 20 dernières années, une entreprise comme Orange a payé 8 points de plus d'impôt sur les sociétés que les entreprises du CAC 40. Et on retrouve la même chose chez Deutsche Telekom. Il y a eu 8 points de plus d'impôt sur les sociétés. Parce que pareil, en Allemagne, Deutsche Telekom faisait peu de recherche et développement et donc arrivait à réduire peu son assiette d'impôt sur les sociétés.
D'accord, donc c'est la double peine en France. Si on passe sur le facteur droit de la concurrence, donc peut-être vous parlez dans l'étude d'approche statique de la concurrence. Hein, donc quelles seraient les solutions, les évolutions souhaitables pour favoriser la compétitivité et donc se rapprocher des leaders des télécoms mondiaux?
Oui, le droit de la concurrence européen, il est très statique. Il va considérer que l'enjeu du régulateur européen, c'est de vérifier qu'il y a bel et bien le nombre d'opérateurs qui va pour avoir une vraie compétition. Alors, c'est une démarche qui a un sens. Hein. Quand vous avez un nombre élevé d'opérateurs, vous avez plus de compétitivité. Et par exemple, aux États-Unis, avec 3 opérateurs, on peut se dire, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'ils ne sont pas sur le bénéfice? Est-ce qu'ils n'ont pas organisé une sorte de cartel? Bon. Mais toujours est-il qu'il y a un juste milieu. Le vrai risque, c'est d'être dans l'excès. Si vous avez trop d'opérateurs, ils vont être petits, ils vont se faire énormément de concurrence entre eux. Si vous n'en avez pas assez, ils risquent de s'asseoir sur leur laurier et d'abuser de leur pouvoir de marché. Nous, on est clairement dans l'excès en termes d'opérateurs. Vos prix ont baissé de l'ordre de 35% en 20 ans, alors que les prix standards dans les autres domaines ont augmenté de 70%. Donc il y a un curseur européen qui va trop loin. Si vous étiez un domaine où il n'y avait pas d'innovation technique, ça ne serait pas trop gênant. On pourrait considérer que finalement, les gros investissements dans les télécoms ont été faits dans les années 70, 80, 90 par les États en Europe, avant les vagues de privatisation, et qu'il est légitime d'éviter qu'un opérateur, aujourd'hui coté en bourse, ayant une assise internationale, n'abuse de son pouvoir de marché en pratiquant des prix trop élevés. Et donc on pourrait se dire, ben voilà, c'est tout à fait normal d'avoir 3-4 opérateurs, et c'est très bien. Mais là, c'est l'inverse. Ce qu'on voit, c'est que la rentabilité d'Orange est inférieure à celle d'une grande entreprise française standard. Donc vous n'êtes pas en train d'abuser de votre pouvoir de marché. On voit que les prix, le panier moyen de votre consommateur, augmentent moins vite que les autres domaines. Donc là, il y a clairement un problème de curseur. Donc ça, c'est un débat entre les économistes. Hein. J'aime beaucoup un économiste qui s'appelle Philippe Aguillon, qui dit que la régulation du droit de la concurrence en Europe est une grande réussite. Il dit que c'est la grande réussite de l'Union européenne et il compare souvent la situation européenne par rapport à la situation nord-américaine où selon lui, le marché s'est cartélisé. Mais au-delà de toute l'estime que j'ai pour Philippe Aguillon, je considère que chez vous, dans votre domaine, on est en train d'abuser, d'affaiblir des opérateurs européens et donc d'affaiblir le sol européen. Parce que si vous ne vous développez pas, si Deutsche Telekom ne se développe pas mieux, si toute une série d'opérateurs européens ne se développent pas mieux, à la fin, le marché, il sera dans les mains des Nord-Américains, des Asiatiques, et on sera à la traîne.
Oui, donc au final, c'est vrai que les consommateurs donc, étaient les gagnants hein, donc, sur quand on regarde les 30 dernières années hein, donc, en Europe, hein, donc, sur cette organisation hein, des télécoms et donc ce marché à 3 ou à 4 par État. Si on va plus loin, est-ce que les salariés, les entreprises du secteur et les actionnaires sont aussi pénalisés finalement ?
C'est complexe de répondre, Olivier, à ces deux questions. Parce qu'il y a plein d'effets. Dans une entreprise comme Orange, héritière de France Télécom, vous avez par exemple historiquement des fonctionnaires. Et donc, il y a des évolutions de rémunération qui sont différentes. Pareil, en termes d'actionnaires, l'actionnariat historique, vous êtes issu des privatisations. Et cet actionnariat, en fait, historique, il a fallu le recréer. Il avait disparu. Donc c'est vraiment très très difficile. Mais je peux pas vous dire si les salariés sont pénalisés de cet état de fait. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la rentabilité est à la traîne. Et qu'en termes boursiers, les entreprises comme les vôtres ont du mal à satisfaire les analystes. Et même des entreprises de plus petite taille. Vous prenez par exemple Free. Free a été coté en bourse. Et s'est retirée, la bourse, parce qu'elle n'était pas assez valorisée. Et donc, il y a vraiment un sujet de visibilité qui manque pour avoir des beaux parcours boursiers.
Alors juste hein, pour illustrer hein, ce que vous venez de dire, donc dans le bon, il y a eu dans les échos hein, récemment hein, donc des informations hein, sur la situation hein, de Vodafone et de BT et donc Patrick Drahi, hein, le patron d'Altice hein, qui a fait pour la troisième fois une acquisition d'actions de BT et dans l'article il est marqué l'insondable trappe à valeur des télécoms. Donc on est bien donc, effectivement sur une sous-valorisation dont on souffre. Et donc bon, si on parle actionnaire salarié, donc effectivement s'il y a des évolutions donc, sur cette situation européenne, probablement qu'en tant qu'actionnaire salarié, on en profitera.
Il y a aussi des distorsions, parce que quand on regarde, le conseil standard aujourd'hui d'un analyste, c'est de séparer l'infra, notamment de faire des tower co d'un côté, et faire des opérateurs commerciaux de l'autre. Nous, à Molinari, on est assez dubitatif. Mais ce conseil, il est lié au droit de la concurrence. Les towerco ne sont pas bridés par le droit de la concurrence européen. Les opérateurs de télécom standard le sont. Donc, ça crée une incitation, finalement, à se défaire de son patrimoine. C'est une mode, hein. On a ça dans l'hôtellerie, par exemple. Vous regardez les grands opérateurs hôteliers, ils séparaient d'un côté leur patrimoine immobilier de l'exploitation. On a eu ça dans l'énergie, on a eu ça dans les transports. Ça peut être problématique. En termes de qualité de service, on sait très bien, par exemple dans l'énergie, qu'entre GRDF et les distributeurs d'énergie, ben, y a une séparation fonctionnelle par certains aspects, crée des coûts, par certains aspects, crée des distorsions. Et donc nous, on est assez dubitatif de ce modèle de séparation fonctionnelle. On comprend pourquoi il a été pensé, mais on pense aussi au manque à gagner qu'il peut créer en termes de rapport qualité-prix.
On a évoqué hein, les capitalisations boursières qui sont très inférieures en Europe par rapport à celles des États-Unis. Quelques chiffres complémentaires à nous donner ?
C'est 10 400 milliards. D'épargne longue qui manque en Europe. Alors, comment on a fait ce chiffre ? On a regardé les capitalisations boursières des entreprises européennes, et la capitalisation boursière des entreprises en Europe représente 70% du PIB. Quand on se projette dans l'OCDE, c'est en moyenne 147% du PIB. Donc, en fait, il manque cette différence entre 147 et 70. Il manque 77 points de PIB de capitalisation boursière en Europe. Alors, ça, c'est des choses historiques. Les marchés boursiers se sont développés au 19e siècle en Europe. Ils ont subi toute une série de chocs. Vous avez des pays, notamment l'Italie, notamment l'Allemagne, où les marchés boursiers sont très très peu développés. Nous, on est aux alentours de 106% du PIB. Donc on est mieux loti en termes de bourse que nos voisins italiens ou allemands, qui sont des capitalismes assez familiaux, assez liés à l'autofinancement. Nous, on est un peu plus boursier, mais on est très en retrait par rapport à la moyenne de l'OCDE, et notamment par rapport aux États-Unis. Et ce retrait boursier est clé pour le financement de l'innovation. Parce que clairement, quand vous développez de l'innovation, au début, vous n'avez rien à dire à un analyste crédit. Vous avez juste une promesse. Et les promesses, elles sont prises en charge dans notre monde moderne par les marchés boursiers, qui lèvent des capitaux sans attendre des rentabilités immédiates. Souvenez-vous, pendant des années, Amazon était exclusivement une réussite boursière. Cette entreprise qui faisait des pertes chaque année levait chaque année encore plus de capitaux en bourse. Et certains présentaient ça comme une anomalie. Non, parce que l'analyste boursier, il achète le temps long. Et il achète la performance dans 10 ou 20 ans. Et il sait qu'investir maintenant, même si l'entreprise n'est pas rentable, c'est un bon choix. Et donc, si vous voulez développer le temps long, il faut de la bourse. Et d'ailleurs, on avait cette bourse au 19e siècle. Nos chemins de fer, toutes nos entreprises innovantes dans la chimie qui faisaient la force de l'Europe à la fin du 19e siècle, elles ont été financées historiquement par le développement des bourses européennes. Aujourd'hui, on est très en retrait et c'est pour ça qu'on est en retard en termes d'innovation. Aujourd'hui, le modèle européen, c'est toujours le modèle des années 80-90. On va croître parce qu'on a un plan étatique. Par exemple, on a été bon dans le nucléaire parce qu'on avait des plans étatiques. On a été bon dans l'aéronautique parce qu'on avait des plans étatiques. On a construit Airbus de façon à damer le pion à Boeing, mais c'était les volontés d'État. Ça, c'est le mode de financement du XXe siècle. Au XXIe siècle, tous les grands acteurs qui émergent, les Elon Musk, les GAFA, se sont appuyés sur les États, ils s'appuient sur la commande publique, mais ils leveragent cette commande publique dans des bourses parce qu'ils sont dans des pays irrigués par l'épargne. La réussite des GAFA aux États-Unis, c'est quoi? C'est cette commande publique qui est boostée par le Nasdaq, qui est alimentée par les fonds de pension. C'est ça ce qui nous manque
Ok, donc
pour être bon en innovation. Et c'est vrai dans votre domaine, c'est aussi vrai dans toute une série de domaines, y compris les domaines traditionnels où on était bon. Regardez, la grande révolution en termes de pharmaceutique des dernières années, c'est l'ARN messager. Et les concepts étaient pensés en Europe et ont été développés aux États-Unis parce qu'il y avait des capitaux aux États-Unis pour financer ces recherches longues.
Le point sur le faible niveau des fonds de pension en France et en Europe de façon plus globale. On se posait une question sur est-ce que le développement de l'actionnariat salarié, finalement, ne serait pas un substitut au moins partiel au faible développement des fonds de pension?
Oui et non. Alors, d'abord, comme vous, Olivier, j'adore l'actionnariat salarié. Je trouve que c'est un produit qui est très, très vertueux. Et c'est gagnant-gagnant de le développer, et c'est clé. Et chez Orange, vous en avez beaucoup. J'ai côtoyé aussi beaucoup d'entreprises qui le développaient de façon très positive, et ça aligne les intérêts. Et j'ai mon vieux fonds jaurésien, je suis un fan d'histoire sociale et j'adore les écrits de Jean Jaurès des années 10. Et il disait en 1910, à l'époque du débat sur les retraites ouvrières et paysannes, il faut développer la capitalisation pour que les salariés deviennent propriétaires de l'économie. Et il a des très belles phrases où il dit, quand le salarié est actionnaire, il a tout le produit social de son travail. Il a son salaire, avec la régularité liée à son salaire, et il a la valeur ajoutée qu'il a créée au-delà de son salaire, grâce au rendement du capital, parce qu'il est actionnaire. Et donc, quand vous avez les deux, vous avez quelque chose de de très puissant. Un salarié, c'est la notion même de salarié, ne peut pas être rémunéré que par le rendement du capital, parce que ce rendement est fluctuant, est aléatoire, donc il a besoin d'un salaire qui est linéaire. Mais si, en plus, il est actionnaire, il bénéficie de l'entièreté du rendement de son travail. Et ça, c'est un grand courant dans toute l'histoire sociale française, hein, je vous parlais de Jean Jaurès, mais quand vous regardez De Gaulle et la participation, De Gaulle reprend exactement cette conception jaurésienne, et donc c'est un point fort. Après, il y a une question de dose, comme toujours. On ne peut pas mettre toute son épargne retraite dans l'actionnariat salarié. Parce que c'est courir des risques. Nos amis nord-américains nous l'ont montré, on a tous en tête quelques abus comptables, notamment dans des entreprises type Enron, qui ont pu être faits avec des salariés qui ont vu la valeur de leur épargne retraite chuter. Et non seulement ils perdaient leur emploi parce que leur entreprise était mal portante, mais en plus, ils perdaient leur capital retraite. Alors, en l'occurrence, là, je vous parlais d'Enron. Les salariés ont pu se retourner contre leur employeur, mais il a fallu des années pour qu'ils se fassent indemniser. Et on en a conclu en Europe, à juste titre, qu'il fallait diversifier l'épargne retraite. Et quand on regarde, par exemple, les pairs collectifs, les pairs col, l'héritier du perco, qui sont dédiés à l'épargne pour la retraite, vous ne pouvez pas mettre les actions de votre entreprise. Et c'est un bon conseil. Bon, donc concrètement, mais on en avait déjà parlé dans vos réunions, pour vous, c'est une force de détenir cette épargne retraite, mais il ne faut pas tout mettre dans l'action orange.
Tout à fait. Non, on est d'accord. Mais bon, en général, donc l'acquisition d'actions se fait, hein, donc grâce à des offres réservées au personnel et pour lesquelles donc il y a une décote, hein, de 30%, et donc le risque est quand même moindre, hein, et puis effectivement après c'est à chacun de gérer son épargne salariale.
Merci Nicolas et Olivier. Donc moi, ce que je retiens, c'est que il y aura probablement, avec ces gains de croissance et cette prise de conscience des freins qui pèsent sur le secteur des télécoms, il y aura donc pour les investisseurs actionnaires salariés des gains potentiels à l'avenir. Donc merci beaucoup pour cette étude, Nicolas, et merci Olivier pour cette interview rondement menée. Bravo.
Merci à vous.